Ce podcast fait partie d'un cycle coordonné par le Réseau national des maisons des sciences de l'homme, les projets Transilience, recherche participative pour catalyser les initiatives de transition et renforcer la résilience territoriale, a été repéré par la science scientifique InterMSH, crise sanitaire et environnementale, pilotée par le réseau.
Bonjour, donc je suis Léa Sébastien, maîtresse de conférences en géographie à l'Université Toulouse 2 et chercheure au CNRS, au laboratoire Géode. Le projet Transilience, il a comme objectif de développer des recherches réellement participatives, des recherches citoyennes, vraiment au service de la transition écologique, au plus près des habitants du territoire, donc à une échelle très locale. En fait, l'idée, c'est un peu de sortir pour nous de notre zone de confort et de travailler de manière collaborative entre des scientifiques, des associations et des habitants qui sont déjà des collectifs citoyens, qui sont déjà engagés dans la transition pour vraiment co-construire de manière collective des problématiques, des questionnements et des outils qui seraient directement utilisables par les habitants pour opérationnaliser vraiment la transition écologique. Donc depuis 2 ans, on a travaillé en région Occitanie, donc moi je travaille à Toulouse, que ce soit dans le Gers, en Ariège, dans le Tarn, avec différents collectifs citoyens sur des sujets divers, que ce soit la mobilité, l'alimentation durable. Ce sont les habitants qui choisissent les thématiques qui sont importants pour nous, et nous, on essaye de se mettre un petit peu à leur service. Alors, sur les méthodologies, elles sont multiples, et justement, on navigue au cas par cas, donc on n'a pas de méthodologie arrêtée, mais c'est beaucoup basé sur des ateliers de discussion. Donc, on va sur un territoire, on fait un premier atelier pour récolter les freins, les difficultés, et surtout les attentes des citoyens vis-à-vis des scientifiques. Voilà, qu'est-ce qu'ils attendent de nous ? Est-ce qu'ils attendent quelque chose ou pas. Donc après, on fait un petit bilan de quelles actions on pourrait envisager collectivement. Alors, des exemples de besoins, par exemple, les collectifs citoyens ont souvent besoin de visibilité. Souvent, il y a beaucoup d'initiatives de transition partout sur les territoires, mais elles peuvent rester un petit peu en marge, un peu isolées. Et donc, les collectifs citoyens ont besoin de s'ancrer davantage sur les territoires et de créer des réseaux entre elles. Donc ça, c'était un besoin qui revenait. Et donc, à partir de ça, on a créé plusieurs ateliers autour de la cartographie participative où les citoyens ont créé des cartes de leur territoire avec les différentes initiatives de transition qui avaient lieu, portées par qui, pourquoi, pour une mise en réseau. Donc ça peut être un exemple. Un autre exemple, on a mené aussi des enquêtes. Justement, on a perçu sur les territoires, donc ça revenait aussi dans les difficultés, un peu cette rupture entre des néo-ruraux qui auraient envie de porter des initiatives et des habitants natifs pour qui la notion de transition parle très peu. Et donc, ils ont du mal à s'ancrer comme ça sur les territoires. Et donc là, il y a eu l'idée de mener des enquêtes sur les interactions entre acteurs d'un même territoire et surtout sur la notion d'attachement au lieu. Pourquoi est-ce que les habitants habitent sur ce lieu, quelles relations ils entretiennent avec ce lieu et pourquoi ils auraient envie de se rassembler pour le préserver, ce lieu. Donc voilà, c'est des exemples. On avance comme ça, atelier par atelier, en proposant différentes méthodes selon la problématique évoquée par les citoyens du territoire. Alors, sur la question de l'interdisciplinarité, évidemment, elle est très présente dans le projet Transilience, mais on est même au-delà, c'est-à-dire que notre objectif, c'est plutôt d'arriver à des apprentissages, disons, croisés entre les différents types de savoirs, entre les savoirs des scientifiques, les savoirs des habitants. Ce sont eux qui connaissent le mieux leur territoire, donc ce qu'on appelle les savoirs vernaculaires, le savoir du monde associatif. Voilà, donc au-delà de l'interdisciplinarité, on est vraiment dans cet objectif d'apprentissage croisé entre différents acteurs sur un même lieu. Alors il y a des avantages et des inconvénients effectivement à une recherche comme ça sans filet, sans hypothèse, sans problématique, où on part un petit peu comme ça à l'aventure sur les territoires. Donc nous, ça nous permet de nous questionner sur notre rôle, quel doit être notre rôle aujourd'hui dans cette urgence climatique. Est-ce qu'on doit faire un petit peu comme on a l'habitude de faire ou est-ce qu'on doit modifier nos pratiques pour essayer de répondre au mieux et être le plus efficace possible sur les territoires. Donc voilà, ça nous questionne vraiment dans nos pratiques, donc ça c'est très stimulant, ça nous permet de créer des liens assez fort avec des citoyens, avec le monde associatif, et de rendre vraiment concret cette notion un peu floue de transition qui est un petit peu vague et qui veut dire plein de choses différentes pour plein d'acteurs. Ça rend vraiment, voilà, sur des sujets très concrets, d'actionner des leviers et des freins au niveau très local. Ensuite, voilà, on a été confrontés quand même à beaucoup de difficultés aussi, hein, le fait de partir comme ça, de sortir de notre zone de confort, c'est assez déstabilisant. On a ressenti aussi parfois une méfiance envers le monde scientifique de la part de certains collectifs citoyens qui nous conduisaient souvent à devoir légitimer, nous justifier sur qu'est-ce qu'on faisait là, et de même auprès des collègues scientifiques, le fait que ce soit une approche un petit peu comme ça déstructurée nous conduit aussi à devoir nous justifier auprès des institutions pour montrer que non, c'est quand même de la science, certes c'est pas le protocole classique, et donc voilà, que ce soit à la fois sur les territoires comme auprès de certains collègues, c'est pas, comme c'est un type de recherche un peu émergent, c'est pas toujours facile de le maintenir, en tout cas sur le temps long. Alors sur la question de la valorisation de ce type de recherche, c'est une vraie question, c'est une question qu'on se pose et à laquelle j'ai pas de réponse actuellement, parce que justement on n'est pas dans un objectif de production de données, de production de connaissances, on est dans un objectif de collaboration et de transférabilité d'outils, de données, mais auprès des habitants. Et donc pour l'instant, c'est vrai qu'on s'interroge sur la possibilité de rédiger un article scientifique avec les canons classiques de ce que les revues scientifiques attendent. Pour l'instant, on n'a pas réussi à mener ce travail parce que les données qu'on a sont des données très situées, des données au cas par cas. C'est des données qui sont réclamées par les citoyens et qui leur sont utiles. Mais pour une valorisation plus large, c'est une question qui nous travaille. Donc on a pensé... Il y a peut-être un petit écrit collectif sous forme d'un livre ou d'un site internet ou d'un petit kit comme ça d'intervention qui serait transférable sur différents territoires. Mais c'est vrai que ce genre de recherche ne permet pas une valorisation facile et classique des données recueillies sur les territoires. Mais justement, là aussi, ça nous interroge sur quel est l'objectif des activités scientifiques aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours cette course à la publication un petit peu incessante, ou alors est-ce qu'il y a d'autres canaux qui peuvent être aussi valorisés ? Pour donner un exemple récent là, sur lequel on est en train de travailler actuellement, à la demande d'un collectif citoyen, on travaille sur la notion d'indicateur alternatif. Donc aujourd'hui, la société est régie par des indicateurs économiques type PIB, taux de chômage, etc. Et donc c'est l'idée un petit peu de changer la mesure pour changer le modèle. Et donc c'est voir un petit peu, donc on mène des ateliers comme ça participatifs où les citoyens, sur une après-midi, collectivement, discutent de quelles sont les thématiques prioritaires pour leur territoire. Donc est-ce que c'est la mobilité, est-ce que c'est la qualité de l'eau, ça dépend de la commune. Quel est l'objectif par rapport à cette thématique? Est-ce qu'on vise une autonomie alimentaire? Quels sont les objectifs qui seraient à atteindre sur ces thématiques? Et ensuite, comment on peut mesurer ça dans le temps en termes de dynamique de transition, c'est-à-dire une dynamique temporelle, est-ce qu'on est en train de s'améliorer? Est-ce que la commune est en train de s'améliorer sur la qualité de l'eau, sur la mobilité douce, ou au contraire, ça se dégrade? Donc ça, c'est des indicateurs de transition qui sont collectivement discutés. Et de l'autre côté, c'est la notion de résilience. Donc le projet s'appelle Transilience, donc transition et résilience. Et donc on discute pareillement des indicateurs de résilience territoriale. Donc la résilience, c'est la capacité de quelque chose à s'adapter à des chocs externes. Donc c'est un concept qui est utilisé en psychologie, en dynamique des matériaux, mais aussi en géographie. Et donc comment un territoire, quelles sont ses forces et ses faiblesses pour faire face à la chute de la biodiversité, au changement climatique, aux sécheresses, etc. Est-ce qu'il a beaucoup d'eau? Est-ce qu'il n'a pas beaucoup d'eau? Est-ce qu'il a du bois? Est-ce qu'il n'a pas de bois? Donc c'est réfléchir très localement à des mesures en termes de résilience de territoire, ses forces et ses faiblesses. Et l'objectif de ces ateliers qu'on mène actuellement, c'est de créer ce qu'on appelle une boussole de la résilience territoriale qui pourrait guider les habitants avec des nouvelles mesures alternatives qui pourraient les guider dans leurs actions et qui peut leur permettre d'interpeller les élus sur des thématiques très précises avec ces données à l'appui. Alors ce podcast sur le projet Transilience déjà peut permettre simplement de souligner tous les enjeux qu'il y a autour de cette notion de recherche participative, de co-création de problématiques scientifiques, à la fois ses atouts et ses difficultés. Peut permettre d'initier un réseau autour de chercheurs se posant ces questions et de discuter de comment mettre en place justement de plus en plus ces recherches participatives qui paraissent quand même être essentielles aujourd'hui pour répondre aux enjeux de transition écologique. Et plus largement, c'est une étape pour faire plus de liens entre le monde scientifique et puis les différents acteurs de la société auxquels on s'adresse.
Merci beaucoup Léa Sébastien pour avoir été avec nous. Ce podcast fait partie d'un cycle du réseau national des maisons des sciences de l'homme et le projet Transilience a été repéré par l'action scientifique Inter et Message, crise sanitaire et environnementale.